Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos émissions et je vous en remercie. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier de notre numéro qui est consacré à la mer de Chine, notre hors-série qui est consacré à l'armée de terre. Et puis en cette fête de Noël qui approche, vous pouvez offrir des abonnements à Conflit pour tous ceux qui aiment la géopolitique. Un abonnement d'une année à Conflit est un excellent cadeau. Et vous pouvez faire des abonnements via notre boutique en ligne revueconflit.com en vous abonnant ou en abonnant vos proches et vos amis à Conflit. Vous nous permettez de poursuivre cette activité éditoriale, vous permettez de soutenir la revue et de vous proposer un grand nombre de contenus en libre accès. Cette semaine, je vous propose de partir dans l'histoire militaire pour aborder un conflit important qui s'est déroulé entre 1925 et 1927, à savoir la guerre du Rif au Maroc, un conflit qui, on va le voir au cours de cette émission, a vu s'opposer des visions différentes de la guerre, des visions différentes également de la présence coloniale française au Maroc, et cette guerre du Rif est extrêmement riche d'enseignements pour notre période. Pour évoquer la guerre du Rif, je reçois cette semaine Max Scavon. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes historien, vous travaillez beaucoup sur cette période des années 1920-1940. Vous êtes docteur en histoire et vous avez notamment dirigé le service historique de la défense. Vous venez d'ailleurs de publier une biographie du général Gamelin, dont nous avons fait une recension sur le site de Conflit. Alors, nous n'allons pas parler de Gamelin cette semaine, quoique peut-être que nous aurons l'occasion d'en dire un petit mot, mais plutôt de cette guerre du Rif, qui commence donc pour la France en 1925 et qui est extrêmement intéressante à bien des égards. Alors, avant de partir dans la guerre elle-même, peut-être faut-il toujours en histoire commencer par le début des choses et présenter le milieu géographique, le milieu humain aussi, parce que lorsqu'on parle du Rif, on parle certes du Maroc, mais d'une région précise au Maroc, d'une région qui est montagneuse, ou collinaire, dirons-nous, et donc qui est difficile d'accès, et puis également dans un pays qui est très particulier d'un point de vue colonial, parce que le Maroc n'est pas, d'un point de vue administratif, une colonie. Donc ça fait beaucoup d'éléments, et puis on va évoquer les questions du Maroc et de la France, mais il y a une troisième puissance qui intervient, qui est la puissance espagnole. Donc on a l'impression d'une sorte de mélange un peu complexe, dont vous allez peut-être pouvoir nous aider à démêler les chevaux et à nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment les choses se sont passées.
Alors, pour présenter un petit peu à nos auditeurs le Maroc de l'époque, la France a entrepris au début du siècle de s'installer dans ce pays avec des conflits d'emblée car l'Allemagne n'acceptait pas la présence française au Maroc, la Grande-Bretagne non plus puisque ça permettait théoriquement de fermer le détroit de Gibraltar. Donc je résume. Hein. Donc depuis 1906, c'est là qu'Algésiras, nous avons pris pied sur le sol marocain, et suite aux accords du protectorat de 1912, nous occupons une majorité du pays, nous assurons la sécurité au profit du sultan, tandis que tout à fait au nord, l'Espagne, comme vous l'avez dit, occupe une bande, alors pour comprendre, d'environ 300 km de large, c'est-à-dire depuis l'Atlantique jusqu'à l'Algérie, sur une centaine, 300 km de long sur une centaine de large. Et là, c'est donc la zone espagnole. Et au sud de la zone espagnole, bien, se situe toute la zone française. Les lignes sont assez mal délimitées. Et le Maroc compte à l'époque environ 5-6 millions d'habitants. Il est grand comme la France, 560 000 km². Ce qui est très important, vous l'avez souligné, c'est que le nord est effectivement très montagneux, vous avez dit collinaire, mais c'est plus que collinaire, c'est très montagneux avec des sommets, de la neige et des conditions très difficiles l'hiver, d'autant plus que durant la période 25-26, il y aura un hiver extrêmement dur qui gênera beaucoup les troupes. Donc on se retrouve tout à fait dans une guerre de montagne. Voilà un petit peu globalement, si vous voulez, la présentation du Maroc. Donc en 1925, on est, si vous voulez, depuis 20 ans, on pacifie le Maroc petit à petit.
Alors j'évoquais l'Espagne, on a parlé du Maroc. Quelle est la position du sultan et également cette guerre du Rif, c'est aussi la guerre d'Abdelkrim. On va revenir sur ce personnage extrêmement important. Mais quelle est justement la position du Maroc, enfin, du sultan du Maroc et son rapport à Abdelkrim et son positionnement pendant la guerre?
Le sultan, bon, après beaucoup de discussions et de pérégrinations depuis 1912, il était pro-français, puis contre les Français. Il y a eu des sortes de coups d'État familiaux au sein de la famille. Lorsque Abdelkrim engage sa révolte, on sent bien qu'il est opposé au sultan et qu'il veut lui-même se faire proclamer sultan du Maroc, en tout cas. Donc le sultan ne voit son salut que dans la France et par l'intermédiaire de l'IOT, qui est le commissaire général français au Maroc.
Alors c'est une guerre qui est très rude, vous le dites, à peu près 10 000 morts côté Rif, enfin côté insurrection du Rif, environ 2 500 morts côté français et troupes alliées de la France.
Oui.
Donc pour un conflit qui a duré un an et demi, environ 2 ans, donc c'est extrêmement lourd comme perte.
Oui, ce sont le conflit débute le mi-avril 1925, il se termine fin mai 1926. Alors on peut, selon les historiens, rattacher les combats de l'été 26, la réduction de ce qu'on appelle la réduction de la tâche de Taza, qui est en fait une zone montagneuse où il y avait beaucoup d'irréductibles depuis longtemps. Donc voilà, on peut dire 13 à 17 mois. C'est une guerre très, très dure, effectivement, où la France a eu 2 300 morts, 3 000 blessés, plus d'une centaine, 125 ou 130 officiers tués. Donc c'est une guerre très, très rude. On ne peut qu'estimer les pertes côté rifain. Les Espagnols aussi ont eu des milliers de pertes. En tout cas, beaucoup moins que depuis leur fameuse défaite d'Annual en 21 qui a permis d'armer Abdelkrim. Mais ça a été la plus grande, c'est le plus gros engagement colonial de la France de tout temps avant la guerre de 40.
Comment se financent les rifains? D'où est-ce qu'ils tirent l'argent qui leur permet de financer la guerre?
Alors, les rifains, j'y reviens parce que on va voir qu'ils ont besoin de financer, mais ils ont obtenu une quantité d'armes phénoménale en 21, et là j'y reviens. Les Espagnols ont une façon de pacifier qui est bien différente des Français. En fait, ils se montrent très, très rudes, très, très durs, et ils ont dans leur zone espagnole une résistance qui est bien supérieure à celle que l'on observe dans les zones françaises. Alors, comme cette résistance énerve les chefs militaires et le roi espagnol, celui-ci mandate le général Silvestre en 1920-1921, pour réduire cette dissidence endémique qu'il n'arrive pas à vaincre. Et une très importante colonne de militaires espagnols, dans l'après-Première Guerre mondiale, à laquelle ne participent pas les Espagnols, la dissidence dans la partie espagnole est de plus en plus vive, et à un moment donné, le roi et les chefs militaires décident d'en finir. Il décide d'en finir et pour se faire une colonne espagnole très importante, dirigée par le général Silvestre, progresse dans le Rif, mais va subir une défaite totale. Silvestre expédiera plusieurs télégrammes pour qu'on l'aide, mais il ne recevra aucune aide. En fait, les Rifains ont attaqué d'abord l'arrière-garde. Ensuite, les troupes se sont dispersées, elles ont été massacrées. Mais l'important, et je reviens à votre question, c'est que les Rifains s'emparent de 19 000 fusils, hein, exactement les chiffres de 400 mitrailleuses, de 120 canons, de dizaines de tonnes de munitions, c'est-à-dire de millions de cartouches, qui vont leur permettre de préparer la lutte future pour conquérir la partie du protectorat espagnol, mais également pour attaquer les Français. Donc au début, ils n'ont pas besoin de financement, il s'auto, c'est-à-dire il s'autofinance, Abdelkrim, en conquérant, en imposant sa loi aux tribus, leur impose des impôts qui leur permettent de vivre. Et puis, il a aussi des aides étrangères, notamment de nos amis britanniques, hein, qui, par l'intermédiaire d'officiers, d'anciens officiers de l'intelligence service, sous-doient ou fournissent de l'argent. On pense aussi qu'il y a des Allemands qui ont participé et d'autres sociétés étrangères. Voilà.
Qui sont ces Rifains pour se révolter? C'est un peuple à part? C'est une tribu qui est opposée au sultan?
Oui, à l'origine, c'est la tribu c'est la tribu tout simplement d'Abdelkrim qui, par tache d'huile, va faire entrer en insurrection les autres tribus qui sont voisines. Et petit à petit, je répète, par tache d'huile, de nombreuses tribus vont s'insurger. Alors, comme dans beaucoup de guerres révolutionnaires, elles vont pas toujours s'insurger de gaieté de cœur ou volontairement. C'est-à-dire que Abdelkrim impose sa loi, il prend des otages, il oblige les chefs des caïds, les chefs de tribu à combattre avec lui. Donc, si le père chef de tribu n'obéit pas, il peut arriver quelque chose au fils. Donc, il y a aussi beaucoup de coercition dans son action. Hein, nombre de tribus voulaient rester fidèles au sultan.
Ce qui est intéressant dans cette guerre, enfin intéressant du point de vue de la stratégie militaire, c'est qu'on a un exemple de guerre des guérillas ou de guerre de révolutionnaires, comme vous le dites, qui a échoué. Après, au cours du XXe siècle, on voit beaucoup de guerres révolutionnaires qui réussissent. Je pense à la guerre d'Algérie, je pense au Viet Minh par exemple, ou au Vietnam. Là, c'est un cas d'échec et de victoire, on va dire, des troupes régulières ou des troupes coloniales françaises.
Oui, c'est difficile, même si beaucoup ont fait le rapprochement, c'est difficile de comparer avec l'Indochine, l'Algérie. Ce sont pas les mêmes enjeux, la politique n'a pas joué le même rôle, et puis surtout, il y a c'est pas totalement une guérilla. Alors si je dis ça, bon, la guérilla, c'est la petite guerre, comme chacun sait, mais les Rifains ont à la fois harcelé les colonnes françaises, mais parfois ils ont combattu en bataille rangée, en construisant des tranchées, en se fortifiant dans des villages, en creusant des mers, en ouvrant des meurtrières dans les mechtas. Donc c'est pas tout à fait comparable. Et puis surtout, il y a une différence d'effectifs, puisque beaucoup de chiffres ont circulé, il n'y a pas d'archives côté Rifin, mais pour résumer, on pense que les Rifins ont disposé au maximum de 60-65 000 fusils, hein, comme c'est le terme qui était employé à l'époque. Et face à eux, les Français ont été jusqu'à 140 000. Maintenant, il faut nuancer, parce que l'IOT du Pétain n'avait pas toutes leurs forces sur le front nord. Il fallait avoir des forces j'allais dire de sécurité à Marrakech, dans le sud, sur la côte. Donc, les forces étaient légèrement supérieures côté français.
Alors vous avez cité les noms de Pétain et Liotey. On va évoquer donc ces deux grandes figures parce qu'elles se sont succédées à la tête des troupes françaises pour combattre la guerre du Rif. Ce sont deux personnalités différentes, deux tactiques également mises en place différentes et donc il est intéressant de les étudier. En ayant aussi à l'esprit que lorsqu'on parle du maréchal Pétain, d'ailleurs les deux sont maréchaux, Liotey et Pétain, lorsqu'on parle du maréchal Pétain en 1925, ce n'est pas le maréchal Pétain de 1940. Donc il ne faut pas faire l'anachronisme de lire l'histoire à l'envers ou à rebours. Quand on étudie la période et pour les Français qui la vivent, évidemment en 1926, on ne sait pas ce qui se passera 15 ans plus tard. Mais pour l'instant, le maréchal Pétain, c'est l'un des vainqueurs de Verdun, l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, une personne aussi appréciée et pour ce qu'elle a pu faire, et c'est à cette aune-là qu'il faut la voir. Mais commençons par Liotey, parce que lui, il est présent au Maroc depuis plusieurs années, il est résident général du Maroc, et le Maroc est un peu son royaume, il y a un attachement qui est plus qu'administratif et militaire de Liotey à l'égard du Maroc.
Oui, Liotey, donc après avoir commandé la 10e région militaire à Rennes, avoir été général de division sur la partie ouest de l'Algérie, a été nommé en 1912 résident général au Maroc. C'est le terme d'appellation hein, de l'IOT, et il s'est passionné pour ce pays. Il est convaincu très tôt, il écrit que le pays doit aller vers son indépendance, mais il faudra pour cela des dizaines d'années pour former les élites. Mais il aime ce pays. Il cherche à ne pas le violenter, mais il sait recourir à la force lorsque c'est nécessaire. En tout cas, il est là depuis 1912, en dehors de la petite parenthèse où il a été ministre de la guerre pendant la Première Guerre mondiale, mais il a retrouvé son poste immédiatement après. Et lui, sa politique, bah, c'est de pacifier en ouvrant des marchés. Et il dit que les ennemis d'aujourd'hui sont les alliés de demain. Donc il évite chaque fois qu'il le peut toute coercition brutale, et il utilise à fond, si j'ose dire, le service de renseignement. Alors, le service de renseignement, ce sont des officiers que l'on appelle à l'époque les officiers indigènes. Ils sont détachés dans des postes isolés ou bien auprès des tribus. Et ils discutent. Ils discutent avec les caïds, avec les populations. Ils parlent arabe, ils parlent berbère. Et ils font remonter l'information, à la fois les demandes de la population, et puis aussi, ils détectent les foyers de contamination d'insurgés. Il s'occupe aussi de faire passer, de détourner de médecins. Donc voilà, c'est de la pacification coloniale avec, j'allais dire, ce qu'elle a de positif et en utilisant le moins possible la force. Voilà l'IOT.
Et comment il applique cette politique durant la guerre du Rif, justement, parce qu'il n'a pas réussi à la maîtriser. D'ailleurs, il a été remplacé ensuite par Pétain.
Alors, durant la guerre du Rif, l'IOT, cela faisait plusieurs mois qu'il voyait des tensions, puisque Abdelkrim voulait que la France lui laisse toute latitude au nord de l'Ouerga, qui est une rivière globalement qui va d'est en ouest au nord de Fès. Abdelkrim voulait avoir la liberté sur sa zone, et surtout que la France reconnaisse ce qu'il appellera dans un deuxième temps la République du Rif. Or, ni la France ni l'Espagne ne pouvaient le faire, parce que c'était contraire au protectorat. Le protectorat, c'était une protection de la France donnée au sultan. Donc, elle ne pouvait pas l'accepter. À partir de ce moment, l'IOT se perçoit que les conflits se rapprochent. Il crée un certain nombre de postes militaires au nord de la rivière Ouerga, des postes d'alerte, qui sont en zone française, dans le protectorat, mais en zone française, et même à 20 à 30 km au sud de la ligne qui délimite les zones françaises et espagnoles. Donc il n'y a aucune provocation, mais ces postes détectent que Abdelkrim envoie des émissaires dans les tribus qui se trouvent sur la zone française, et de plus en plus il y a des risques, il y a des accrochages militaires, il y a des pertes par dizaines, hein, dès 1924. Et donc, l'IOT demande des renforts. Ces renforts lui sont accordés avec parcimonie. Rappelons qu'en 1924, le cartel des gauches est arrivé au pouvoir. Et ce n'est pas innocent de dire ça, mais sachant l'IOT d'opinion monarchiste, il n'est pas, si j'ose dire, en odeur de sainteté auprès du gouvernement. Et toutes ces demandes sont lues à l'aune de ses opinions. Donc, le gouvernement ne lui lâche pas facilement les renforts, et en plus, même l'état-major de l'armée de terre à l'époque, mais qui s'appelle à l'époque l'état-major de l'armée, a beaucoup de soucis au Levant, également dans la garde au Rhin. On vient de passer la période d'occupation de la Roure pour faire piller les Allemands pour qu'ils payent les réparations qu'ils nous doivent. Et donc, on manque de soldats. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'armée française est forte d'environ 480 000 hommes, et ces hommes sont dispersés. Il y en a un petit peu plus de 300 000 en métropole et en Allemagne. Les autres sont à l'Indochine, en Afrique, beaucoup en AOF, en AEF, au Maroc. Hein, avant que la guerre du Rif démarre, l'IOT dispose de 68 000 hommes. Donc, beaucoup de gens sont outre-mer, dont l'état-major de l'armée n'est pas très chaude pour... L'état-major de l'armée n'est pas très chaud pour envoyer des renforts pour se démunir, sachant qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe bien à l'est.
Alors, on va voir, enfin, on va évoquer Pétain un peu plus tard, mais juste avant Max Cavion, je voudrais revenir sur cette question militaire, parce que on est 7 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale a apporté une modification de la stratégie, des méthodes de combat. Dans la guerre du Rif, est-ce qu'il y a encore des éléments qui s'apparentent à la façon de combattre pendant la Première Guerre mondiale, je pense notamment à l'année 1918, ou est-ce qu'on est sur une guerre complètement différente, une guerre de mouvement et non pas une guerre de tranchées, l'usage de l'aviation également. Donc est-ce qu'on serait pas plutôt, même si c'est un anachronisme à l'époque de dire ça, mais vers une guerre plus proche de ce qu'on va connaître en 1939?
Alors, il faut distinguer, pour répondre à votre question, il faut distinguer les trois périodes de la guerre du Rif. D'abord, il y a la période qui va durer, 3 mois, qui est appelée la période héroïque. Durant cette période, donc de mi-avril à mi-juillet, les forces s'équilibrent. Quand je dis s'équilibre, non, les Français sont en infériorité. Et donc, ça va être une guerre de mouvement. Des colonnes qui s'enfoncent, des postes qui sont pris d'assaut. Cette période-là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé de fin 14 à 1918, c'est-à-dire rien à voir avec une guerre de position, une guerre industrielle. Ensuite, à partir de début juillet, mi-juillet, des renforts conséquents par dizaines de milliers sont arrivés et on assiste à une période de stabilisation qui va durer jusqu'en mai 26. Puis en mai 26, c'est la reprise d'une guerre de mouvement avec des colonnes françaises qui s'enfoncent dans le pays rifain, mais des colonnes françaises qui sont sous forme de divisions de marche, de groupements qui équivalent à des corps d'armée, et dans laquelle on retrouve un petit peu une organisation type 1918, mais par contre, pas la doctrine qui était alors en vigueur. Donc vous voyez, il y a quelques éléments qui ressemblent. On pourrait en trouver d'autres, mais nous n'aurons pas le temps. Par exemple, l'emploi de l'artillerie. Mais en fait, c'est bien différent de ce qui se passe, du conflit qui s'est terminé en 14-18.
Et l'aviation, quelque chose qu'on emploie ou pas ?
Alors, l'aviation joue un rôle majeur. L'IOT aura cette expression magnifique. J'ouvre les guillemets. Nous sommes tous à genoux devant l'aviation. Et parce que celle-ci a joué un rôle majeur dans tous les domaines, du plus petit au plus grand, prenons l'exemple pendant des postes assiégés, eh bien les avions larguaient des cubes de glace qui ensuite étaient fondus sur place, puisque les postes français étaient sur des pitons et donc n'avaient pas de puits et n'avaient plus d'eau. Donc voilà, un rôle d'alimentation, ils transmettaient le courrier. L'aviation a également bombardé les arrières, mais surtout, elle a bombardé et mitraillé les Rifains au contact des troupes françaises. Elle était commandée par le colonel Armengo, qui commandait à l'époque le régiment d'aviation du Maroc. C'était un régiment, rappelons que l'armée de l'air n'existe pas encore. Et ce colonel Armengo, qui est un des meilleurs officiers de l'armée de l'air de l'entre-deux-guerres, puisqu'en 1933, il passera dans l'armée de l'air et il terminera général d'armée aérienne. Le colonel Armengo est convaincu, surtout à l'issue de cette guerre, de la nécessité d'un appui aérien rapproché, ce qu'on appelle aujourd'hui le close air support, l'appui aérien rapproché. Malheureusement, tout ce qu'il dira et écrira, parce qu'il écrivera, il écrira un livre sur la guerre du Rif, il sera envoyé en mission en Pologne en 1939, et à part, il dira bien que les Allemands ont employé en Pologne les méthodes d'appui rapproché, notamment avec les Stuka. Malheureusement, il ne sera pas entendu pour diverses raisons qu'on ne peut pas développer ici. Mais l'aviation a joué un rôle majeur. Je termine en disant qu'elle a joué aussi un rôle majeur, et c'est la première fois dans les évacuations médicales, puisque des dizaines d'avions sont spécialisés dans les évacuations médicales, atterrissent au plus près de la zone des combats. On trouve des systèmes spéciaux de civières qui sont mis à l'arrière du pilote, puisque ce sont des avions dans lesquels les pilotes sont à l'air libre, et ils sont ramenés vers l'arrière. Et le médecin-chef de Fès estimera qu'on a sauvé des centaines de blessés grâce aux avions qui leur déposent les blessés à côté de l'hôpital. Donc, beaucoup de choses nouvelles grâce à l'aviation.
Alors, on a évoqué la stratégie du maréchal Lyautey. Évoquons maintenant celle du maréchal Pétain. Vous l'avez dit, Lyautey n'est pas vraiment sur la même ligne politique que le cartel des gauches. Pétain, d'un point de vue politique, est quelqu'un d'un peu plus consensuel, d'un peu plus républicain oui. aussi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a été placé à la place de
alors,
Goethe
Oui, alors Pétain a une image de républicain. Il est républicain d'ailleurs, Pétain, il n'y a aucun doute là-dessus. Plutôt conservateur, mais il cache ses opinions parce qu'il estime que ça ne regarde personne. Et il est tout simplement envoyé là-bas pour deux raisons. Premièrement, il a la confiance du gouvernement, de Pain Levé, mais aussi Pétain, en 25, c'est le chef de l'armée. Et le gouvernement estime que, c'est pour cela que j'ai souligné les effectifs tout à l'heure, que si sur 300 ou 400, 480 000 hommes, on en envoie 140 000 au Maroc, c'est l'opération principale, et il veut avoir son avis. Donc le gouvernement commence par l'envoyer pour juger de la situation, notamment parce que l'IOT, au mois de mai, je ne dis pas qu'il s'affole, mais il expédie des demandes de renfort tous les 4-5 jours. Donc, ça apparaît brouillon au gouvernement, qui voit arriver des demandes, j'ai besoin de 12 bataillons, puis 5 jours après, on lui dit, j'ai besoin de 5 bataillons et 4 batteries d'artillerie, puis 8 jours après, j'ai besoin de 10 bataillons. Donc, tout ça fait que le gouvernement veut y voir clair, et il mandate Pétain pour dire, allez sur place et dites-moi ce qui se passe. Donc, Pétain va sur place, il se rend compte qu'il y a réellement... des gros problèmes et que la France joue gros, hein, elle joue gros parce que ce qui se passe au Maroc peut contaminer l'Afrique du Nord, peut contaminer les autres colonies, même si, là aussi, ne faisons pas d'anachronisme, les participants n'ont pas conscience que cette guerre est sûrement une bascule au sens où, à partir de celle-ci, des années 20, on va voir éclore des mouvements de libération, des mouvements de revendiquant davantage d'émancipation, une intervention de l'international communiste, etc., etc. Donc Pétain va au front, il interroge les gens, il connaît beaucoup d'officiers qui ont été sous ses ordres pendant la guerre de 14, et unanime, ils lui disent « voilà, on risque gros ». De toute façon, il présente des faits en disant « on a tant d'adversaires ». On se bat sur 200 ou 300 kilomètres, ils peuvent concentrer des efforts dans un secteur et donc nous battre. On a déjà 1000 morts en 2 mois, donc c'est très impressionnant. Et Pétain revient convaincu qu'il faut envoyer beaucoup de renforts.
Oui, vous faites bien de souligner cette lecture historique parce qu'on a toujours la tendance malheureuse à l'anachronisme en lisant la guerre du Rif à l'aune de la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam. Alors ça peut être possible, mais évidemment en 1925-26, les hommes d'Abdelkrim ne savent pas ce qui va se passer après, et donc c'est pas leur sujet. Ils sont là pour eux, ils sont pas là pour ce qui pourrait advenir 30 ou 40 ans plus tard.
C'est ça.
Et Pétain, quelle est sa stratégie, ou quelles sont ses différences par rapport à Lyautey?
Alors, Pétain, si il voit que l'ennemi est solide. Hein. Il mandate également certains officiers pour essayer de détecter le nombre d'adversaires. On y parvient très difficilement, mais on est toujours, même après cette période héroïque, on est toujours entre 40 000 et 50 000. Et sachant, je le répète, que les Rifains ont des mitrailleuses, des canons, un certain nombre de déserteurs ou d'agents étrangers leur ont enseigné à s'en servir. Donc, ils ne s'en servent pas à la mode européenne, mais ils peuvent faire des dégâts. Par exemple, période héroïque, ils parviennent très bien à amener des canons à proximité des postes français et à tirer en direct sur ces postes. Donc, ils ne tirent pas par batterie de 4, de 8 ou par groupe de 12, mais ils savent amener un ou deux canons et tirer avec. Donc, c'est un risque. Et Pétain se rend compte que pour les vaincre, il faut le nombre. Il demande à avoir de nombreux renforts pour deux raisons, il me semble. Bon, d'abord, si cette guerre du Rif ne correspond pas à ce qui s'est passé en 18, Pétain garde le souci de l'économie du sang. Et il veut, pour éviter les pertes, donc pour éviter 1000 morts en 2 mois et d'extrapoler ce chiffre, il veut des forces nombreuses pour éviter que les pertes soient importantes. Mais il y a un deuxième facteur très important, et là je suis obligé de toucher à la politique de l'époque, c'est que Pain-Levé a l'appui des radicaux socialistes, mais les socialistes qu'il appuyait au début sont de plus en plus circonspect, hostile à la poursuite de cette guerre. Donc, la tache d'huile, le fait de pas être, de limiter les violences, il est philosophiquement d'accord, mais il a très peur, il est quasiment sûr même que le Parlement ne votera pas les budgets au-delà du printemps 26. Les budgets importants côté français pour continuer la guerre, faire en sorte de faire vivre 140 000 hommes, c'est quand même une prouesse d'avoir envoyé autant d'hommes à 2 000 km pour l'époque, encore une fois. Et donc, il demande à Pétain d'avoir des résultats extrêmement rapides. Donc, en 26, il y aura encore des conférences, notamment à Ouessant, une conférence franco-rifaine, pour essayer de trouver un accord, mais ça n'aboutira pas. Et donc finalement, une offensive sera déclenchée en mai 26. Elle prévoit qu'en 2 mois, le Rif soit occupé. Finalement, en 3 semaines, même moins de 3 semaines, 15 jours et demi, Abdelkrim se rend. Donc il y a ces deux raisons. Pétain veut éviter les pertes côté françaises, il y parvient. Et également, il veut donner satisfaction au gouvernement qu'il a mandaté pour aller vite à cause du Parlement qui devient de plus en plus hostile.
Qu'en est-il de l'opinion publique dans ce conflit? 1918, ça a quand même été un traumatisme. Enfin, la Première Guerre mondiale a été un traumatisme. On est 7 ans après. Qui est-ce qui combat? Est-ce que c'est une armée professionnelle? On fait aussi appel à des soldats du rang. Et est-ce qu'on voit, enfin, côté français, côté de la population française, est-ce qu'on voit l'intérêt de cette guerre? Ou est-ce que ça apparaît comme un conflit lointain, peut-être même inutile?
Alors, l'opinion française s'y intéresse peu. Et le gouvernement, alors, vu de son côté, a l'intelligence, je ne sais même pas s'il le perçoit à l'époque, si ce n'est pas une analyse ultérieure, il associe à la fois patriotisme et colonialisme. Donc, la population française de base ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Le Maroc est sous notre protectorat. Il y a eu l'exposition. Enfin, non, pardon, il n'y a pas l'exposition coloniale. Il y a eu des expositions. Les Français cultivés, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand public cultivé, connaît les réalisations de l'IOT, ses constructions, la ville de Rabat, tout ce qu'on fait. Donc, si j'ose dire, il n'y a pas de questions métaphysiques qui se posent, hormis au sein du Parti communiste français, qui lui est très en pointe pour s'opposer, et notamment avec un jeune meneur appelé à un grand avenir qui s'appelle Maurice Thorez.
Et les soldats qui vont faire la guerre du Rif, ce sont des soldats du rang, enfin des Français, des civils qui sont engagés comme soldats.
Ce sont pour l'essentiel une immense majorité des professionnels. Hein, ce sont des professionnels et on trouve notamment un grand nombre de régiments de tirailleurs algériens, marocains, dont Abdelkrim d'ailleurs suppose qu'ils trahiront et qu'ils se retourneront contre les Français, contre les Roumis. Hein, il joue d'ailleurs sur la propagande, il essaye d'infiltrer des émissaires, mais ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Il y aura des déserteurs essentiellement issus de la Légion étrangère, des Allemands, des gens de toute nationalité, mais les musulmans de l'armée française seront fidèles au drapeau et ne trahiront pas du tout. Donc il a escompté dès le début cette possibilité, mais elle ne se produira pas.
Comment s'opère la victoire finale? Est-ce que c'est grâce à la stratégie de Pétain et de l'armée française, ou est-ce que c'est aussi un épuisement côté Abdelkrim, un manque de moyens, un manque d'hommes?
Alors, à la fin de la guerre du Rif, donc au mois de début mai 36, quand la conférence d'Ouessant a échoué, 6 divisions françaises, division de marche ou division marocaine, etc., s'apprêtent à passer à l'attaque au sein de 3 groupements, trois équivalents de corps d'armée. Donc, on peut dire, allez, 80 à 90 000 hommes s'apprêtent à pénétrer dans le Rif. Et en face, Abdelkrim, vous l'avez souligné, a perdu beaucoup de soutien. Il a promis des charges, il a promis à ses hommes qu'ils pourraient piller Fès. Mais bon, l'hiver est passé. Le froid est aussi rude pour les Rifains que pour les soldats français. L'aviation bombarde parfois les villages ou les troupeaux pour pour faire peur. C'est du bombardement de harcèlement qui cause aussi des dégâts. Les récoltes sont parfois brûlées. Donc la population l'abandonne petit à petit. Et au début mai, il lui reste peut-être 10 000 fusils. Il lui reste 10 000 fusils alors qu'il est attaqué par des forces 8 fois plus nombreuses. Donc ses forces s'écroulent rapidement. Il y a quelques... pas combats, mais il y a du harcèlement de sa part, de ses troupes vis-à-vis des colonnes françaises qui progressent. Mais très vite, il voit qu'il va être pris et il va recevoir les émissaires français, parce que ce n'est pas une guerre non plus totale, vous voyez, cette guerre du Rif. Donc le colonel Corap, à qui il se rend, lui envoie une lettre en lui disant « Voilà, si vous vous rendez, la France se montre généreuse, vous aurez la manne. » La manne, au Maroc, c'est le pardon. Donc il sait qu'il ne sera pas, il sera pas fusillé, il ne sera pas abattu, etc. Et donc il demande la protection pour lui, pour sa famille, pour ses biens, et elle lui est accordée. Donc finalement, un beau matin, il se rend au colonel Corap et au lieutenant-colonel Giraud, hein, le futur général Giraud, et il arrive tout simplement sur un cheval, et les troupes françaises sont au garde à vous, forment le carré, et il se rend.
Et il finit comment? Il termine en prison ou il est...
Alors, il a... Abdelkrim a amassé pas mal d'argent, donc il est... C'est bien, si vous voulez, il faut 360 mules pour les transporter, donc il a sa grande famille. Il va être exilé sur l'île de la Réunion, mais pas du tout emprisonné, avec une villa et tout ça aux frais du contribuable français. Alors qu'il est assigné à résidence, après la Seconde Guerre mondiale, il réussira à quitter l'île et il se réfugiera en Égypte, où il sera considéré à ce moment-là comme effectivement un précurseur de toutes les guerres de décolonisation, et il décédera en Égypte, au Caire, en 1963.
Et il a joué un rôle politique ensuite, notamment dans les guerres de... Non ?
Non, il n'a joué absolument aucun rôle.
Donc il était l'auteur d'une guerre, si je puis dire, où il a eu son moment de célébrité pendant cette guerre, mais après il n'intervient plus dans les questions coloniales.
Il reste une référence morale.
Et côté français, comment se termine cette guerre? C'est-à-dire qu'une fois que la pacification a été faite, est-ce que l'armée se retire? Est-ce qu'on reconsidère différemment les liens avec le Maroc?
Alors les liens avec le Maroc, ils sont basés sur le principe du protectorat qui sera en vigueur jusque dans les années 50, jusqu'à ce que Juin soit le lointain successeur de l'IOT. Il y a encore des combats... assez solide en 26-27, puisque si on compte les tués et blessés, on a quand même pratiquement 1000 morts et blessés en 26, et 500 en 1927. Cette pacification a trop duré, et en 1930, le ministre de la guerre, André Maginot, décide que ça a trop duré. Ça a trop duré tout simplement parce que c'est le moment où on décide d'évacuer la rive gauche du Rhin, où l'Allemagne redevient potentiellement dangereuse. Donc on est pourtant avant l'accession d'Hitler au pouvoir, mais le service de renseignement français a détecté que l'Allemagne réarme en cachette, et donc Maginot pense à juste titre qu'il a besoin de toutes ses forces en Europe et qu'il ne peut pas garder détaché des milliers de gens au Maroc. Donc il demande au général Végan, qui est le chef de l'armée à ce moment-là, de concocter un plan. Celui-ci est défini, est mis en œuvre, et cette pacification du Maroc s'achève en 1934. Elle aura duré 28 ans, et en 1934, le général Huré, qui est le commandant supérieur des troupes, écrit « La pacification du Maroc est terminée ». Effectivement, à partir de ce moment-là, il y aura encore des escarmouches, mais on comptera les pertes sur le doigt de deux mains, et il n'y aura plus des centaines de morts. Le Maroc est complètement pacifié.
On a évoqué la position de la France et celle de l'Espagne. Est-ce que d'autres nations interviennent, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, par exemple?
Alors, l'Allemagne a envoyé des agents secrets et aussi la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne nous a cherché des noises, notamment parce que je l'ai avancé tout à l'heure, elle voudrait surtout pas que la France occupe la partie espagnole et se rapproche de Gibraltar, mais aussi il y a un bruit qui court, qui a touché même pas mal d'Américains, qui présuppose que le sous-sol du Maroc serait extrêmement riche d'or, d'étain, d'argent. Alors vous savez, l'or, ça a toujours fait rêver non seulement les conquistadors, mais tous les aventuriers. Et donc, à la fois, ça serait bien si la France ne pouvait pas en bénéficier et si eux-mêmes avaient des concessions. Donc les Anglais ont essayé de nous jouer des tours et d'attiser la haine des Français et de privilégier les riffs.
Et finalement, la situation va donc évoluer vers un désengagement français et une prise de pouvoir politique de plus en plus forte de la part de celui qui sera après le sultan.
Oui, après le général Huret, il y aura d'autres commandants supérieurs des troupes, et ça durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y aura toujours un résident, je vous ai dit, jusqu'à ce que Juin, et puis le général Guillaume, occupe le poste. Mais on va se désengager progressivement. Il y aura des régiments de plus en plus marocains, à base français, mais à base de Maroc, les régiments de tirailleurs marocains, les spahis marocains, qui existaient déjà, les goums. L'on retrouvera à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors des combats en Italie, sous les ordres de Guillaume d'ailleurs. On va se désengager le plus possible, plus possible. Le Maroc retrouvera une grande utilité pendant la guerre, juste avant la libération, lorsque les Américains nous livreront le matériel pour équiper deux ou trois divisions blindées et sept divisions d'infanterie, après les accords d'Anfa.
Alors vous évoquez la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cette guerre du Rif a été un laboratoire ou est-ce qu'on a tiré des enseignements pour les évolutions militaires qui auraient ensuite pu être utilisées en 1940 ou après?
Alors, il y a deux types d'enseignements, si vous voulez. Il y a des enseignements locaux. Ça, ils sont tirés parce qu'on a constaté des dysfonctionnements, hein, ça qui est inévitable. Donc, il s'agit de les corriger, hein. Et Pétain demande à ce qu'on tire surtout des enseignements fin 25 pour réussir la campagne de 26. Alors les enseignements locaux, ben là, on pourrait dire beaucoup de choses, dont certains auraient pu servir pour la Seconde Guerre mondiale, mais n'ont pas été gardés. J'en prends un par exemple. Un enseignement sur lequel tous les chefs militaires sont d'accord, c'est qu'il faut alléger l'homme, c'est-à-dire il faut que le sac à dos soit mis dans des véhicules et que le combattant soit le plus allégé possible lorsqu'il engage le combat. Voilà un enseignement, par exemple, qui n'a pas été conservé en 1939. Il n'y a pas assez de véhicules pour transporter les impedimenta et les sacs. Hein. Les colonnes qui ont été conceptualisées depuis Bugeaud sont à modifier. Il faut que un petit peu, là, j'allais dire, comme l'armée romaine, il faut qu'on soit capable de se défendre de tous les côtés, puisqu'on s'est aperçu que les Rifains attaquaient surtout l'arrière-garde par derrière. Hein. Alors, comme enseignement qui perdure, on pourrait dire, et ça pourrait paraître contradictoire avec ce que j'ai dit au départ, c'est que certains chefs militaires on tire des enseignements qui pourraient préfigurer ce qui s'est passé en Algérie et en Indochine, et notamment par rapport à la guérilla. C'est-à-dire que certains découvrent que les Rifains ont réussi un certain nombre d'actions en attaquant avec des petits groupes de 5 à 30 hommes, voire par individus embusqués, puisque les Rifains sont de remarquables tireurs, qui ont abattu des officiers français. D'ailleurs, l'ordre est donné de ne plus jamais combattre avec des galons apparents, les galons dorés, ça date de cette époque, et de revêtir, et pour les officiers, de revêtir la même tenue que leurs soldats, avec des galons qui ne se voient pas. Donc certains Français se disent, ce n'est pas la peine de mettre des bataillons face à ces groupes de 30 hommes, il faut nous aussi qu'on crée des petits groupes de contre-guérilla, le terme est employé à l'époque, hein. Il faudrait réunir des partisans, des indigènes. Un colonel écrit même, je cite, des aventuriers de tout poil, qui opéreraient en petits groupes sur les arrières des riffins, qui tendraient des embuscades. Ce colonel-là écrit, ça ne coûtera pas plus cher que les pensions à payer aux parents de victimes. Donc il y a déjà cette idée qu'on pourrait agir avec des forces de contre-guérilla. Voilà quelque chose de tout nouveau qui, évidemment, n'avait jamais été vu avant cette date.
Ces forces de guérilla, on les pense comme des mercenaires ou est-ce que ce sont des personnes de l'armée régulière?
Non, ce sont des gens de la. C'est pensé à l'époque comme des gens de l'armée régulière française, mais des, si vous me permettez, des tempéraments, des gens de caractère, des gens particulièrement choisis au sein des bataillons existants. C'est un petit peu les corps francs de 39, si vous voulez. C'est un petit peu les commandos futurs de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Très bien, merci beaucoup Max Cavion d'avoir évoqué pour Conflit la guerre du Rif. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre du Rif, qui est paru chez Perrin, donc une édition en poche et vient également de paraître chez Tempus. Et puis vous publiez également une biographie du général Gamelin, toujours utile pour comprendre le rôle de cet homme. Alors on le connaît évidemment son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sa vie a évidemment commencé bien avant, et c'est cela aussi qui permet de comprendre son action durant le Deuxième Conflit mondial. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos numéros sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Vous pouvez également retrouver nos anciennes émissions, près de 300 émissions podcast qui sont accessibles dans la bibliothèque de Conflit consacrée à la géopolitique, à l'histoire militaire ou à bien d'autres sujets. Vous pouvez ainsi, notamment pendant les vacances de Noël, si vous partez sur la route, accompagner vos voyages avec les podcasts Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.